خاشك نلبر بديت الوفاب لكن زين البين ظهور تسرو يا راب في سفلة من غدين في الزير وزكام لكن زين البين ظهور تسرو يا راب
Arzqi, en fait, saute aux yeux à la lecture des éléments de la biographie professionnelle ou son parcours de journaliste, que ce soit à El Moudjahed, à Algérie Actualité ou Rupture. Le curseur de ces passages s'est toujours fixé sur la rubrique culturelle et rien que cette rubrique. Mais au soir de sa vie, il s'est mis aux chroniques politiques. Comment expliquer cela ?
D'abord, c'est à moitié vrai parce que Tahar a toujours été... D'ailleurs, il n'y a pas que lui, il y a toute une équipe comme ça, dont Jihad et d'autres qui nous ont rejoints à Rupture, qui ont toujours installé le débat politique dans la rubrique culturelle.
D'accord.
Je m'explique. Par exemple, quand vous relisez les papiers de Tahar, de Jihad, etc., pendant une très longue période à Algérie Actualité, vous verrez que dans la rubrique politique, on parle de la dernière réunion du FLN, mais dans la rubrique culturelle, on parle des livres qui ont mis en cause le FLN, par exemple, ou qui critiquent le FLN. Dans la rubrique politique, on vous dit que Chedli a reçu un tel, etc., ou... et dans la rubrique culturelle, on vous parlera d'un livre ou d'un film qui parle des grèves des ouvriers algériens, etc. Voilà. Donc le débat politique a toujours été transporté dans les rubriques culturelles. Et donc, il est vrai que, en particulier après les fameuses élections de 91 qui ont vu le fils gagner, etc., Tahar a écrit quelques éditoriaux carrément d'Algérie Actualité. Et ce qui était étrange, c'est qu'il n'était ni directeur ni rédacteur en chef. Mais c'est lui qui est monté au créneau parce que sans doute personne ne voulait le faire. Et je pense qu'il n'a pas fait de gaieté de cœur parce que moi qui le connais depuis très longtemps, il avait horreur d'écrire directement en politique, quoi. Il avait horreur, ça ne l'intéressait pas. Mais là, il est monté au créneau et à Rupture, on est arrivé à la formule qui lui convenait le plus, c'est-à-dire parler de culture, mais sous l'angle politique. Voilà, Tahar était quelqu'un qui était très sensible aux enjeux globaux de la société, à la fois dans leur dimension culturelle et politique. Pour lui, c'était relativement imbriqué.
C'était un écrivain et romancier précoce. D'ailleurs, sa première œuvre, Les Insoumis, est une nouvelle. Écrite en 1970, il avait 16 ans. Alors, quid de ce talent précoce ?
Oui, oui, il avait du talent. Il a reçu un prix très jeune. Je ne me souviens plus du prix. Je crois que c'était un prix que donnait la revue Afrikazi pour une nouvelle. Il était très, très jeune. Mais ce qu'il faut dire aussi, parce que... je crois qu'il n'aurait pas aimé lui-même, il n'aurait pas aimé cette idée de génie précoce, etc. Tahar, c'était d'abord un travailleur, quelqu'un qui travaillait beaucoup. Pour lui, il n'y a pas de don, c'est le travail qui est le talent. Son talent, c'est le travail, c'est ce qu'il disait. Hein, c'est-à-dire qu'un texte, il le retravaillait jusqu'à... tout ce que Tahar a fait, c'est une espèce d'exaltation de l'effort et du travail. Et pour lui, c'était ça le plus important, c'était de travailler.
Les Vigiles, le roman pour lequel il a reçu le prix Méditerranée, est une œuvre marquante dans l'histoire du roman algérien. La critique l'avait salué comme une fable satirique, le portrait d'une Algérie bureaucratique. Quelle a été votre lecture de ce roman à l'époque et quel regard vous lui portez a posteriori?
Il faut dire que je ne l'ai pas relu depuis un moment. Je l'avais bien lu. D'abord, il me l'avait donné à lire en manuscrit, parce qu'à l'époque, on était Algérie Actualité. Donc, il était en train de l'écrire. Il me l'avait montré. Et puis oui, il a trouvé la façon, une façon très très intelligente de dénoncer la bureaucratie, cette forme de bureaucratie qui essaye d'entraver les efforts d'un jeune inventeur qui reçoit un prix à l'étranger, etc., pour une invention. Et ce qu'il faut dire, c'est que je crois qu'il y a un fait qui a influé sur lui, sur Tahar, au moment où il écrivait ce roman, ou peut-être même qui lui a donné l'idée d'écrire ce roman, c'est que Tahar est venu poursuivre ses études en France. Je ne sais plus en quelle année, en 83, 84, il est venu finir des études au centre de formation des journalistes, là, à Paris. Et il a vécu, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 ans à Paris pour finir ses études. Et puis, quand il est reparti, il a acheté une petite voiture qu'il voulait emmener en Algérie, comme le font beaucoup d'émigrés. Et puis, à l'époque, on n'avait pas de voiture. On ne pouvait pas acheter une voiture en Algérie. Il a acheté une voiture d'occasion. Et la misère qui lui a été faite, comme à tous les émigrés, pour pouvoir rentrer sa voiture, il a fallu des mois et des mois et des mois de tracasseries bureaucratiques, affronter des tracasseries bureaucratiques. Et je sais qu'il en a tellement parlé à l'époque que je le vois dans ce roman, je vois ces tracasseries bureaucratiques, c'est-à-dire le poids de la médiocrité bureaucratique sur le destin des gens. Et c'est ça que les vigiles montrent, c'est comment au nom d'une légitimité qui est très très aléatoire, parce qu'on a fait la guerre ou qu'on est annoncé Moudjahed, etc., on se permet d'écraser de jeunes inventeurs, comment la médiocrité règne au nom d'une légitimité qui n'en est pas une. Et là, je pense que, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du mouvement du 22 février, que je n'aime pas appeler le Hirak, moi, parce que c'est pas, pour moi, c'est une insurrection citoyenne. On voit bien que c'est une réaction aussi à ce que dénonce Tahar dans les vigiles, c'est-à-dire cette espèce d'écrasement, d'écrabouillement des destins des gens individuels, etc., par un pouvoir de médiocre qui se légitime d'une espèce de fable d'avoir libéré l'Algérie, etc. Et on sait très bien que ce n'est pas vrai.
Autre temps fort du cheminement de Tahar dans le registre de la production romanesque, Les chercheurs d'os, c'est son premier roman publié au milieu des années 80, bien avant les événements d'octobre et la poussée de l'islamisme politique. L'avez-vous lu ?
Oui, bien sûr. Les chercheurs d'os, c'est l'histoire d'une histoire. Vous savez, pendant la guerre, pendant la guerre de libération, il y avait des gens qui ont pris le maquis, qui ont pris le maquis pour libérer l'Algérie, et qui ont été tués dans des villages autres que les leurs, ou dans des montagnes autres que les leurs. Et à l'indépendance, on est allé chercher les os pour les enterrer dans le village. Et c'est ce que racontent les chercheurs d'os. C'était une histoire d'un petit enfant d'un village de Kabylie dont le grand frère était un moudjahed qui a été tué dans une autre région d'Algérie, et il part avec un adulte pour aller chercher les os de son frère pour venir les enterrer dans le village. Voilà, c'était ça l'histoire des chercheurs d'os. C'est une grande interrogation sur la légitimité justement la légitimité de l'histoire, la légitimité de...
D'accord. Donc en fait, Tahar était journaliste. Il a énormément écrit sur les écrivains, artistes et peintres algériens.
Oui, tout à fait, oui.
Donc Le dernier été de la raison est l'ultime texte signé Tahar, donc un texte posthume car publié après sa mort et publié chez les éditions du Seuil. Peut-on considérer que ce livre comme une sorte de testament, un testament révélateur du sentiment de Tahar à l'heure de tirer sa révérence dans les conditions tragiques que l'on sait ?
Testament, je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que Tahar, quand il l'avait pas fini d'abord, hein, il était incomplet. D'ailleurs, ça a posé un problème quand il a été édité, parce que on voit bien qu'il n'était pas fini. Il pointait effectivement une question qui était fondamentale à l'époque, c'était la question de l'obscurantisme, parce que il est question d'un libraire qui vend des livres et puis qui petit à petit on lui interdit de vendre tel livre, etc. Testament, je ne pense pas que Tahar pouvait s'imaginer qu'est-ce qu'il allait lui arriver, quoi. Je veux dire, cet attentat, Tahar était quelqu'un de très bon et qui n'était pas du tout méfiant. Il savait que les intégristes étaient capables de tout et le pouvoir aussi. Mais je ne pense pas qu'il pensait que ça allait jusque-là. Je ne pense... C'est devenu un testament de fait, quoi. C'est devenu un texte testamentaire, mais de fait, du fait même qu'il ait été assassiné alors qu'il l'avait même pas terminé. Hein. Je ne pense pas, mais effectivement, c'est un texte qui montre... Le combat de Tahar contre l'obscurantisme, parce que ça faisait partie des choses qui vraiment le travaillaient, comment au nom d'une religion on va standardiser le comportement des gens, leur habillement, leur façon de porter la barbe et les cheveux, de se comporter, etc., de devenir des soldats de la religion. Pour lui, c'était insupportable. C'était absolument insupportable. C'est tout le contraire qui était son projet de société. C'était l'intelligence, la beauté, le soleil, la liberté du corps, la liberté de l'esprit, etc. Donc il était dans une problématique qui était complètement... il était dans une problématique d'ailleurs comment dans un pays, dans une ville comme Alger où il a vécu, vous avez la mer à côté et vous allez vous enfermer dans des trucs de... Voilà quoi, et pour lui, il y a presque un blasphème.
وجد وجهي وصور غروانا وجد
Tahar a été édité par le Seuil, hein, la maison d'édition, oui. Qui a publié de grandes signatures de la littérature, au rang desquelles des sommités algériennes comme Mouloud Feraoun, Mohamed Dib, Katib Yassine. Tahar d'ailleurs a intégré le catalogue de cette célèbre maison d'édition à l'âge de 33 ans. Quel commentaire vous inspire cette facette du parcours du défunt ?
Il a eu aussi de grands prix littéraires, hein, très jeune. Hein, je ne sais plus à quel âge il a eu le prix Méditerranée. Moi je suis très fier de que Tahar ait pu avoir cette visibilité parce qu'il avait du talent et puis il faut le dire parce que il a vécu à Paris, il a connu un peu les milieux de l'édition parisienne, etc. Je sais qu'il a été, par exemple, qu'il a été introduit au Seuil par Emmanuel Robles, c'est pas rien, hein, je veux dire.
Oui.
C'est pas rien, hein, c'est Emmanuel Robles, je crois, qui a été son premier éditeur au Seuil. C'est pas rien du tout, quoi, hein, je veux dire. C'est là que vraiment Tahar est une fierté pour nous. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais tombé dans le jeu de se laisser manipuler pour la gloire, etc. par ces milieux de l'édition parisienne qui fabriquent des écrivains comme ils l'entendent, etc. Tahar n'est jamais rentré là-dedans. C'est un écrivain authentique qui a écrit et publié uniquement les choses qui viennent de lui, qu'il a soumis par les procédures les plus classiques, c'est-à-dire soumettre un un manuscrit, vous avez un retour, etc. Et on lui a jamais soufflé dans l'oreille, vous êtes algérien, écrivez sur ça, ça va marcher, ou un truc comme ça. Jamais. Donc, il avait une démarche d'intégrité qui mérite d'être signalée.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez gardé de Tarjaout à M. Metrov, autant qu'ami, collègue
Eh bien, beaucoup de regrets, beaucoup de regrets de n'avoir pas profité davantage de... Par exemple, je me suis rendu compte que je le connais depuis le début des années 70, et je n'ai jamais retrouvé une photo où on était tous les deux. Voilà. Quand on vit un peu avec les gens comme ça, on ne pense jamais à... voilà. Mais sinon, je suis fier de l'avoir connu, d'avoir travaillé avec lui. Voilà. C'est un garçon pour... Au-delà de toute considération politique ou littéraire, etc., c'est d'abord un ami... tous ceux qui l'ont connu le savent, c'est un ami très affectueux, très bon, très, très intelligent, de très bonne compagnie. Moi, c'est déjà ça qui me reste. Ensuite, bien sûr, tout ce qu'il a écrit, son expérience de vie, tout ça, Tahar reste maintenant aujourd'hui emblématique du jeune Algérien qui s'est battu pour la démocratie et les Lumières pendant la période à la fois de Boumediene, de Chedli et surtout du début de la décennie noire. Voilà, c'est une conscience éveillée, c'est une espèce de lumière qui restera comme ça au-dessus de nos têtes et qui ne s'éteindra pas, parce que si elle s'éteint, on peut retomber dans l'obscurité. Donc ne l'oublions pas.
Monsieur Mitrov, avez-vous quelques anecdotes à nous faire partager?
Je ne sais pas, des anecdotes, il doit y en avoir plein, mais une seule qui me revient, Tahar avait un très très mauvais sens de l'orientation, et un jour, on s'est fixé rendez-vous pour aller rendre visite à ce grand poète qui s'appelait Béchir Hajjali, à Ussendé, et je lui avais fixé rendez-vous au centre d'Ussendé. Il venait de Bainem, il a mis, je sais pas, 3 heures pour arriver, parce qu'il s'était perdu, et voilà, donc il avait un horrible sens de l'orientation.
Ah, c'est dommage qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, sinon il serait arrivé à l'heure.
Oui, oui, sans doute.
Dis-donc, en fait, au 26e anniversaire de sa disparition, de sa mort, de son assassinat, mis à part quelques associations qui lui rendent hommage comme ça, de par-ci par-là, en Kabylie, on parle de moins en moins de Tarjaout. Quelle lecture faites-vous?
Je ne sais pas quoi vous dire. Il faut dire qu'il y a plusieurs types d'hommages. Il y a eu pendant les premières années de sa disparition des hommages de gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, de ses lecteurs, etc. Mais maintenant, il y a des gens qui l'ont jamais connu, des jeunes, etc., qui le redécouvrent. Par exemple, j'ai rencontré plein de jeunes à Oran, à Constantine, à Alger, à Paris, plein de jeunes étudiants qui travaillent sur Tahar Jaout, qui font des travaux de recherche à l'université sur son œuvre. Et par exemple, à Oran, la personne que j'ai rencontrée, parce qu'elle voulait avoir un peu mon avis sur son œuvre, a fini par, en étudiant Tahar Jaout, etc., a fini par s'attacher à lui à travers son œuvre. Pourtant, c'est une jeune personne qui a 22 ans, donc elle n'a pas du tout connu cette période. Elle a fini par organiser un hommage à Tahar Jaout qu'elle n'a pas connu, etc. Donc, c'est un peu comme nous, quand on fait un hommage à Feraoun, que je n'ai jamais connu, mais qui existe pour moi à travers son œuvre. Voilà, donc il y a de moins en moins de... Peut-être en quantité, il y a moins d'hommages, mais son œuvre a beaucoup plus circulé que de sont vivants, malheureusement. Et voilà, donc ils touchent des milieux. Ils touchent des milieux qui... de plus en plus jeunes, voilà. Je pense que c'est devenu, entre guillemets, un classique. C'est devenu un classique.
D'accord, monsieur Mtaf. Sinon, déjà, c'est une verre à l'intégrer.
Moi, pour moi, Tahar n'est pas vraiment mort, hein, dans la mesure où, où son œuvre reste, et son souvenir reste. Il est, j'ai du mal à concevoir que pendant des années, c'était terrible de savoir qu'il n'allait pas revenir, mais maintenant, on finit par accepter l'idée, mais il y a son œuvre. Et moi, je relis de temps en temps surtout ses poèmes qu'il a écrits très jeune. Ça m'arrive de les relire comme ça et ça me projette dans ces années-là où on avait encore beaucoup, beaucoup de punch et qu'on avait envie de changer le monde. Et je crois que le monde est en train de changer. Voilà.
Si vous avez un hommage à lui rendre, ça serait lequel ?
C'est tout ce que je viens de dire.
Merci beaucoup, M. Mtolov, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et oui, c'était un Tahar raconté par l'un de ses fidèles compagnons. Donc encore tous mes remerciements à M. Arzqi Mtolov pour cette interview poignante en hommage à son ami Tahar Djaout, qu'il nous a accordé il y a 6 ans de cela. Donc voilà, je tiens à signaler que M. Mtolov est journaliste, écrivain, chroniqueur au Soir d'Algérie et un parcours hors du commun. Un grand merci. C'est la Voix de la Berbérie sur les ondes de Campus 106.6 FM pour la région des Hauts-de-France sur le DAB+, et sur campuslille.com pour le reste du monde. L'hommage à Tahar Djaout continue, restons ensemble jusqu'à 15h sur nos ondes. تجميل تمسلين تمسلين ديني تارجع وتتكميل قيمة هزنا على ما تبضنا ذات لساف المطاف نكون بيس 136 ذي 18 فانت مورتنا فرنسا لك ذوستان كون بيس اللي بوان كوم هم اظني هم اظنا ذا رفاث هم ارندوني
تلقم جرت لتوم ثقل دفل غيت مديت مذق مسروي نروح ويدي غير صلتي وحليت الموت البساس نشفو زلزف الناس الدونيس الموت البزاس نشفوه زلزف الناس الدونيس أمشان سنيني يماس يولنا وحيث هيث سعى يقلق في سلسلو الفزيق في ثوى حلالس يقلق في ثوى سلسلو
الفزيق ذي ثوحل اللسيق ذاغ كويث ميسنسلا. طاهر جاوت, pour rappel, donc, est le premier journaliste algérien assassiné par le terrorisme islamiste. Il meurt le 2 juin 1993 suite à un attentat perpétré contre lui le 26 mai 1993 devant son domicile et devant sa femme Farouja. La presse a payé un tribut très lourd. Depuis cette date, 56 autres journalistes ont été victimes de la barbarie. Tahar Jaout, journaliste et écrivain, donc, est né le 11 janvier 1954 à Oulkhou, une petite bourgade de la commune d'Asfoun, sur la côte de la Grande Kabylie. Très jeune, il émigre avec ses parents, à l'instar de beaucoup de familles de la région, vers Alger, où il passe son enfance et son adolescence à la Casbah. Après le bac, Tahar opte pour des études en mathématiques, ce qui a fait de lui d'ailleurs incontestablement un cartésien. Et en 77, il obtient sa licence en mathématiques à l'université d'Alger. Mais sa passion pour la poésie et sa maîtrise de la langue de Molière fait naître en lui une double vocation, le journalisme et la littérature. Pour ce faire, il s'oriente vers les études en sciences de l'information et de la communication et il obtient en 1985 un DEA à l'Université de Paris 2. Dès janvier 1976, il est journaliste professionnel, chroniqueur et éditorialiste à l'hebdomadaire Algérie Actualité. De 83 à 84, il est responsable de la rubrique culturelle. Et en même temps, il prend part d'une manière continue au débat politique, linguistique et culturel de l'Algérie. C'est avec de la poésie que Tahar Jaout entre dans la littérature. De 1975, un recueil de poésie, Solstice barbelé, est publié aux éditions NAM. Au Canada, suivra L'Arche à Voulot, qu'il publie à Paris aux éditions Saint-Germain-des-Prés en 78, avant d'éditer successivement Insulaire ici en 1980, L'Oiseau minéral en 1982 et L'Étreinte du sablier aux éditions Lourite, Sned et La Fomique à Alger. Tahar Jaout a également entamé une aventure romanesque les plus fructueuses. Son actif en compte Les Raies de l'Oiseleur, Les Mots migrateurs, donc anthologie poétique algérienne, Les Chercheurs d'os aux éditions Seuil qui obtient le prix de la Fondation des Lucas, L'Invention du désert, Les Vigiles et L'Exproprié. Tahar Jaout, homme de droiture et de rigueur, a combattu comme journaliste et écrivain l'ignorance et l'obscurantisme. partisan d'une démocratie laïque, il récusait cet islam sclérosé qui envahit son pays. Il s'inquiète aussi de ce nationalisme, son retour critique sur l'histoire et de cet enfermement qui caractérise le régime en place. Il s'en prend volontiers autant à l'intégrisme avoué qu'à l'intégrisme sans barbe. Poète insoumis, adversaire de toutes les entraves, Tahar Jaoud utilise le langage avec amour pour fustiger tout pouvoir castrateur. Mais à ses textes ironiques, sarcastiques, qui accusent l'ordre social devant lequel ni le poète ni son écriture ne plient, se mêlent d'autres, pleins de tendresse et de sensualité. Certains poèmes disent la recherche de soi tournée volontiers vers l'enfance, vers la terre de ses ancêtres, mais aussi le cri, l'errance solitaire du poète et ses espoirs. Il est de cette famille qui avance, qui aspire à des lendemains enchanteurs et non de celles qui reculent ou qui boitent. C'est lui qui dit et tu parles, tu meurs, tu te tais, tu meurs, alors parle et meurs. Et dit encore, à deux, nous avions formé un drôle de trio, ou encore, sans courage à trois mains, et enfin, je ne peux pas jouer triple jeu. Quelques jours après la mort de Mouloud Mehamri, le 26 février 1989, dans un pseudo-accident de circulation sur la route d'Aïn Dfla, de retour d'un colloque sur la littérature organisé à l'université d'Oujda au Maroc, Tahar Jaoud avait publié une lettre intitulée « Lettre d'El Mouloud », dont voici le contenu.
Comme il va être dur de devoir désormais parler de toi au passé. Quelques heures après ta mort, que ta famille et tes amis ignoraient encore, un universitaire qui venait d'assister à ce colloque d'Oujda, d'où tu revenais, toi aussi, m'entretenait de toi. Il me disait entre autres que tu avais passé 7 heures à la frontière, 3 heures et demie du côté algérien et autant du côté marocain. En dépit de ce que tu as donné à la culture maghrébine, tu demeurais un citoyen comme les autres. Un homme qui n'a jamais demandé de privilèges, qui, au contraire, a refusé tous ceux qui l'ont été proposés. Depuis le prix littéraire qui a couronné ton premier roman et que tu as refusé d'aller recevoir, tu t'es méfié de toutes les récompenses parce que tu savais qu'elles demandaient des contreparties. Tu n'étais pas de ces écrivains qui voyagent dans les délégations officielles, dans les bagages des ministres ou des présidents et qui poussent parfois le cynisme jusqu'à écrire une fois rentré des articles contre les intellectuels aux ordres des pouvoirs. Tes rapports avec le pouvoir, tous les pouvoirs, ont toujours été très clairs, une distance souveraine. Tu étais, au lendemain de l'indépendance, président de la première union d'écrivains algériens. Mais le jour où on en était venu t'informer que l'union allait passer sous l'autorité du parti, tu avais remis le tablier avec cette courtoisie seigneurale qui t'est coutumière. Tu n'acceptais aucune contrainte, aucun boulet à ton pied, aucune laisse à ton cou. Tu étais par excellence un homme libre. Et c'est ce qu'Amazir veut dire. Cette liberté t'a coûté cher. De toute façon, tu en savais le prix et tu l'avais toujours accepté. Tu as été peut-être le plus persécuté des intellectuels algériens, toi l'un des fils les plus valeureux que cette nation ait jamais engendré. Le soir où la télévision avait annoncé laconiquement et brutalement ta mort, je ne pus m'empêcher, en dépit de l'indicible émotion, de remarquer que c'était la deuxième fois qu'elle parlait de toi. La première fois, pour t'insulter, lorsqu'en 1980, une campagne honteusement diffamatoire a été déclenchée contre toi, et la deuxième fois, 9 ans plus tard, pour nous annoncer ta disparition. La télévision de ton pays n'avait aucun document à nous montrer sur toi. Elle ne t'avait jamais filmé, elle ne t'avait jamais donné la parole, elle qui a pérennisé en des kilomètres de pellicule tant d'intellectuels approximatifs, tant de manieurs de plume aux ordres du pouvoir. Mais je vais clore là le chapitre navrant et long des brimades. ce serait faire un affront à ta générosité et à ta noblesse d'âme que de m'attarder à rémunération des injustices, des diffamations qui glissaient sur toi comme de simples égratignures, qui te faisaient peut-être mal à l'intérieur, mais ne transparaissaient pas. Tes préoccupations étaient ailleurs, tu avais autre chose à faire. Et puis, tu respectais trop les autres, même lorsqu'ils te faisaient du mal. Sans avoir jamais prétendu donner de leçons, ta vie, ton comportement, ton courage et ton intégrité constituaient en eux-mêmes un exemple et une leçon. C'est pourquoi, toi l'homme modeste et brûlant, qui ne se montre gêné et pris de court que lorsqu'il s'agit de parler de lui-même, tu as toujours été au cœur de ce qui fait ce pays. Et les 200 000 personnes venues de toute l'Algérie escaladaient ces chemins qui montent pour t'accompagner à ton ultime demeure, au cœur de Djurdjura, témoignent en quelque sorte de cela. Toi l'homme pacifique et courtois, toi qui ne claques les portes que lorsqu'un pouvoir ou une chapelle quelconque tente de t'embrigader, tu as aidé non par des déclarations fracassantes, mais par ta lucidité, par ton travail intellectuel minutieux et soutenu, au lent cheminement de la tolérance et de la liberté. Qui peut oublier le début de l'année 80 ? Des hommes qui nient une partie de la culture de ce peuple. Tout le monde, heureusement, a oublié leur nom, car ce ne sont pas des noms que l'histoire retient. T'interdisent de prononcer une conférence sur la poésie kabyle. De partout, de Béjaïa, de Bouira, de Tizi Ouzou, la Kabylie s'est levée pour défendre ses poètes. Et c'est toute l'Algérie qui, année après année, rejettera des bâillons, les exclusions, les intolérances, la médiocrité, et qui un jour d'octobre descendra dans la rue pour l'affirmer en versant une fois encore son sang. Toi, l'humaniste sceptique et indépendant, qui n'a jamais asséné de vérité, qui n'a jamais jugé personne, tu étais presque malgré toi en amont d'une prise de conscience. Et voici que nous devons désormais nous passer de ta présence chaleureuse et brillante, de ta superbe intelligence, de ta bonne humeur à toute épreuve, de ton endurance physique, on peut difficilement t'imaginer malade par exemple, qui te faisait faire des centaines de kilomètres par jour pour aller donner bénévolement une conférence et remonter tout de suite après dans ta voiture. Tu es mort au volant de ta 205, une voiture de jeune, comme le jeune homme fougueux que tu as toujours été. Sois rassuré, Dalmouloud. La dernière image que je garderai de toi n'est pas celle émouvante du mort accidenté que j'ai vu, mais celle de ce jeudi 16 février où nous nous étions retrouvés avec d'autres amis à Irigoamas pour discuter du tournage d'un film. Tu étais élégant et alerte, comme toujours, en tennis. Tu étais le premier au rendez-vous, tu nous plaisantais sur notre retard, tu disant que tu croyais te tromper de jour. Tu étais le premier à repartir, toujours disponible et toujours pressé. Tu avais beaucoup de choses à faire, à donner à cette culture que tu as servie généreusement, sans rien demander en retour, supportant au contraire avec dignité les brimades que ton travail t'a tirées. Tu étais impatient en ce jeudi 16 février, comme si tu savais déjà que le temps pressait. Je te vois encore monter dans ta 205 et démarrer bruyamment sur la route difficile, tandis que nous, nous étions encore à bavarder. C'était la dernière fois que je devais te voir vivant. La jeunesse assoiffée de culture et de liberté t'a toujours reconnu comme l'une de ses figures symboliques. Quelques intellectuels et artistes t'ont toujours témoigné amitié, respect ou admiration dans les moments les plus difficiles. Mais ces derniers mois, c'est tout le monde intellectuel et médiatique algérien qui a commencé à comprendre ton importance et qui a recherché ton point de vue. C'est vrai que certains médias qui avaient peur de se compromettre te sont demeurés fermés jusqu'à ta mort. Mais que de projets auxquels des gens voulaient t'associer, que de journaux t'ont interviewé. Et toi, porté et comme enivré par cette brise de liberté, tu te démenais, tu prenais ta voiture, sillonnais les routes et te rendais partout où l'on te sollicitait. Oran, Michelet, où tu devais rendre hommage à Simone de Moende et où on t'avait offert un burnous, Béjaïa et enfin Oujda. Au mois de janvier, à Béjaïa, ta conférence sur la culture berbère a drainé tellement de monde qu'aucun édifice ne pouvait le contenir. Et c'est dans le stade de la ville que des milliers de gens t'ont écouté et ont discuté de leur culture. Quelle belle revanche sur l'interdiction de ta conférence en 1980. quel trajet parcouru depuis cette date sur le chemin de l'expression libre. Je te revois à cette époque où nous préparions l'entretien qui allait paraître aux éditions La Fomique. Je me rappelle la vivacité de ton intelligence, ton sens de la répartie, ta pudeur et ta gêne lorsque nous sortions du domaine de l'esthétique ou des idées et que je te demandais de parler de toi-même, ton combat nationaliste par exemple, ton militantisme au MTLD, ce que tu as souffert durant la guerre. Tu ne les évoquais jamais, même lorsqu'on te contestait ton passé et qu'on t'en fabriquait un autre. Je me rappelle surtout ta jeunesse indéfectible. Je nous revois encore prenant des glaces dans l'un de ces innombrables salons de thé qui encombrent la rue Belmédi ou dans le café Le Véronèse à Paris. Tu seras toujours près de nous, éternel jeune homme des Atiani et d'Algérie.
Oui, Tahar n'en finit pas d'être absent, mais nous sommes désemparés par l'immensité de sa présence. Tout lui a si mal transcendé nos prétentions comme nos vanités nues devant un monde bourbeux et tourbeux que notre plume indiffère. Tahar Djaout est le premier journaliste assassiné à Alger le 26 mai 1993, mort le 2 mercredi 2 juin, après une semaine de coma profond. Son assassinat a été suivi de la constitution d'un comité de vérité sur l'assassinat de Tahar Djaout, dont l'un des cofondateurs, le psychiatre Mahfoud Bouzebsi, assassiné à son tour à l'arme blanche le mardi 15 juin 1993.
Entre les étoiles, scrutant les cieux, te cherchant en vain et se demandant où tu pourrais être. On est resté orphelin depuis que tu es parti. Ta terre natale que tu chérissais est désormais en larmes. Lorsqu'un poète meurt, c'est toute la terre qui frissonne. Le cœur alors prend froid et commence à rimer sa peine.
Une fleur coupée se fane, un vase tombé à terre se pulvérise et ne contiendra plus les fleurs qui l'embellissent. Un oiseau atteint d'une balle tombe et meurt et n'égayera plus jamais les vergers qui seront enveloppés d'une tristesse infinie. Propose en pétard ce qu'on faut des cellules. Voilà, voilà, donc ainsi s'achève cette émission. Si vous souhaitez la réécouter ou la télécharger, allez sur notre site campusil.com et laissez-vous guider. Je tiens à vous signaler que nos émissions sont en podcast et restent disponibles pour une durée de 8 semaines. Donc avant de retrouver justement nos amis de l'émission Skurte pour vous couscousser, hein, 2 heures de... C'est parce qu'ils disent que je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Donc 2 heures sans esquive, donc je vous laisse en compagnie d'Alid Flaouane, Sultan de Mejvada. Quant à moi, je vous dis à toutes et à tous au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission, pour un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous et mille merci pour votre fidélité.
يسد غرس الوزير سار سايح روح ثانو فزم يفحر يخفي سا ذكر دذكي ضيت سوم يوسد غرس الوزير سا إنا يا سايح روح ثانو فزم يفحر يخفي سا ثامر ثامة ذجن محب أي والنور إلى حب الله الله حيمير نذي فرو الشغل سيا يسمع ذي ونور دي تابر ذي الشغل ساذي نقيمة ذي النذي خلوث الداري وكن نذي تهني معاه ولذي ونور دي تابر ذي الشغل ساذي نقيمة ذي النذي خلوث الداري وكن ذي تهني معاه لو زيري سوثي تنام على ذي غلي فثق وشرى الله الله ولش ذا شو رديني معايا يسمع وشرادي قيم النقشي شرق الثام الطوثة سوى مغار سوى اندين ولنيس وكبذك سنت فروثة ينغك وشرادي قيم النقشي شرق الثام الطوثة سو مغار سو انديلو للنيس وكبثك سنت فروثا ولم اغيال وشان الناقث يوثان اسما وان الله الله وين رين طلن يموثا يا يسمى ذموان الساه أثاين نادي تمكثي ميغلدي يضيسي غرصا يقم ثام الدي ثني مالا لو زر ذموان الساه أثاين نادي تمكثي ميغلدي يضيسي غرصا ورتي خيرا رسياكي ما ثورا ما ذكتشي لي الله